Chapitre 4. Dans la petite chambre sombre, muette, étouffée de rideaux, de portières, de coussins, de peaux d'ours et de tapis d'Orient, les épées, aux lueurs du festin ranimé, étincelaient sur la cretonne des murs, parmi les cartons de tir et les oripeaux flétris des cotillons des trois hivers. Le chiffonnier de bois de rose était surmonté d'une coupe en argent, prix décerné par quelques sociétés de sport. Sur les plaques de porcelaine peinte du guéridon, un cornet de cristal où couraient les volubilistes de cuivre doré portait les branches de lilas blanc et surtout, partout, des lumières palpitaient dans l'ombre chaude. Thérèse et Robert, les yeux accoutumés à l'obscurité, se mouvaient aisément parmi les objets familiers. Il alluma une cigarette tandis qu'elle renouait les cheveux, debout, le dos au feu, devant la psyché où elle se voyait à peine. Mais elle ne voulait ni lampe ni bougie. Elle prenait les épingles dans la petite coupe de verre de bohème qui était sur la table, à portée de sa main depuis 3 ans. Il la regardait, qui passait rapidement dans les ruisseaux d'or fauve de sa chevelure, des doigts de lumière, tandis que son visage durci et bronzé par l'ombre prenait une expression mystérieuse, presque inquiétante. Elle ne parlait pas. Il lui dit « Tu n'es plus contrariée maintenant, ma bien-aimée. » Et comme il la pressait de répondre, de dire quelque chose, « Que voulez-vous que je vous dise, mon ami? Je ne puis que vous répéter ce que je vous ai dit en venant. Je trouve singulier que je sois informé de vos projets par le général Larivière. » Il savait bien qu'elle lui en voulait encore, qu'elle était restée près de lui sèche et contractée, et sans l'abandon qui d'ordinaire la rendait si délicieuse. Mais il affecta de croire que ce n'était qu'une bouderie près de finir. « Ma chérie, je vous ai déjà donné des explications. Je vous ai dit, et je vous répète, que quand j'ai rencontré Larivière, je venais de recevoir une lettre de Caumont me rappelant ma promesse d'aller détruire les renards dans son bois, et j'y avais répondu courrier par courrier. Je comptais vous en avertir aujourd'hui. Oh, je regrette d'avoir été devancé par le général Larivière, mais cela n'a pas d'importance. » Les bras relevés en anse sur sa tête, elle tourna vers lui un regard tranquille, qu'il ne comprit pas. « Alors vous partez ?»« Oui, la semaine prochaine, mardi ou mercredi, je resterai absent 10 jours au plus. » Elle mettait sa toque de loutre piquée d'une branche de gui. « C'est une chose qui ne peut pas se retarder. »« Oh non, non, la peau de renard ne vaudrait plus rien dans un mois. » Et puis comment inviter de bons camarades à qui mon absence ferait de la peine? Fixant sa toque sur sa tête par une longue épingle, elle fronça le sourcil. « C'est très intéressant, cette chasse. » « Oui, très intéressant, parce que le renard a des ruses qu'il faut déjouer. L'intelligence des animaux est vraiment admirable. » J'ai observé la nuit des renards qui chassaient le lapin. Ils avaient organisé une vraie battue, avec des rabatteurs. Je vous assure que ce n'est pas facile de déloger un renard de son terrier. Ces parties de chasse sont très gaies. Caumont a une excellente cave. Pour ma part, je ne m'en soucie guère, mais elle est généralement appréciée. Concevez-vous qu'un de ces fermiers est venu lui dire qu'il avait appris d'un sorcier le secret de brider le renard en prononçant des paroles magiques? « Ce n'est pas cette arme-là que j'emploierai. Je m'engage à vous rapporter une demi-douzaine de belles peaux. »« Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ?»« Mais on en fait de très jolis tapis. »« Ah, et vous chasserez pendant 8 jours ?»« Pas tout à fait, non, mais me trouvant tout près de Sémanville, j'irai passer 2 jours auprès de ma tante de Lannoy. »« Elle m'attend. »« L'année dernière, à cette époque, il y avait là-bas une bien belle réunion. » Elle avait près d'elle ses 2 filles et ses 3 nièces, avec leur mari. Elles sont toutes les 5 jolies, gaies, charmantes et irréprochables. Je les trouverai sans doute au commencement du mois prochain, tous réunis pour la fête de ma tante, et je m'arrêterai 2 jours à Sémanville. Mais mon ami, restez-y tant que cela vous fera plaisir. Je serais désolé que vous abrégiez à cause de moi un séjour si agréable. Mais vous, Thérèse, moi, mon ami, oh, je me tirerais d'affaire. Le feu tombait, l'ombre s'épaississait entre eux, et elle dit avec un ton de rêverie et comme dans une attente, « C'est vrai que ce n'est jamais bien prudent de laisser une femme seule. » Il s'approcha d'elle, cherchant son regard dans l'obscurité. Il lui prit la main. « Vous m'aimez ?»« Oh, non, je vous assure que je n'en aime pas un autre, mais... »« Que voulez-vous dire ?»« Rien, je pense... » Je pense que nous sommes séparés tout l'été, que l'hiver, vous vivez dans votre famille et chez vos amis la moitié du temps, et que si l'on doit se voir si peu, c'est peut-être pas la peine de se voir du tout. Il alluma les bougies. Son visage s'éclaira dur et franc. Il la regardait avec une confiance qui venait moins de la fatuité commune à tous les amants que d'un besoin de dignité régulière qui était en lui. Il croyait en elle par préjugé d'éducation forte et d'intelligence simple. « Thérèse, je vous aime et vous m'aimez, je le sais. Pourquoi voulez-vous me tourmenter? Vous avez parfois des sécheresses, des duretés vraiment pénibles. » Elle secoua brusquement sa petite tête. « Que voulez-vous? Je suis âpre et volontaire. C'est dans le sang. Je tiens ça de mon père. Vous connaissez Joinville? Vous avez vu le château, le plafond de Lebrun, les tapisseries faites au Mincy pour Fouquet. Vous avez vu les jardins dessinés sur les plans de Le Nôtre, le parc, les chasses. Vous disiez qu'il n'y en a pas de plus belles en France. Mais vous n'avez pas vu le cabinet de travail de mon père. Une table de bois blanc et un cartonnier en acajou. Et c'est de là que tout sort, mon ami. Sur cette table, devant ce cartonnier... Mon père a fait des chiffres pendant 40 ans, d'abord dans une petite chambre, place de la Bastille, puis dans l'appartement de la rue de Maubeuge, où je suis né. Non, nous n'étions pas encore très riches en ce temps-là. J'ai vu le petit salon de damas rouge avec lequel mon père s'est mis en ménage et que maman aimait tant. Je suis une enfant de parvenu, ou de conquérant, c'est la même chose. Nous sommes des gens intéressés, nous. Mon père a voulu gagner de l'argent, posséder ce qui se paie, c'est-à-dire tout. Moi, je veux gagner et garder. Ou garder quoi? Je n'en sais rien. Le bonheur que j'ai, ou que je n'ai pas. Je suis cupide à ma manière, cupide de rêves, d'illusions. Oh, je sais bien que cela ne vaut pas la peine qu'on se donne, mais c'est la peine qui vaut. Parce que ma peine, pour moi, c'est ma vie, c'est moi. Je suis âpre à jouir de ce que j'aime, de ce que j'ai cru aimer. Je ne veux pas perdre. Je suis comme papa, je réclame ce qu'on me doit. Et puis... Elle baissa la voix. Et puis, j'ai des sens, moi. Voilà, mon cher, je vous ennuie. Qu'est-ce que vous voulez? Il fallait pas me prendre. Ces vivacités de langage auxquelles il était accoutumé lui gâtaient son plaisir. Mais il ne s'en alarmait pas. Sensible à tout ce qu'elle faisait, il n'en était guère à ce qu'elle disait et n'attachait pas l'importance aux paroles, surtout venant d'une femme. Parlant peu lui-même, il était à 1000 lieues de s'imaginer que les paroles sont aussi des actions. Bien qu'il l'aimât, ou plutôt parce qu'il l'aimait avec force et confiance, il croyait devoir résister à des fantaisies qu'il jugeait absurdes. Cela lui réussissait de faire le maître quand il ne la contrariait pas. Et naïvement, il le faisait toujours. Vous savez bien, Thérèse, que je ne veux que vous êtes agréable en tout. N'ayez donc pas de caprices avec moi. Et pourquoi n'en aurais-je pas avec vous? Si je me suis laissé prendre ou donner, ce n'était pas par raison, bien sûr, ni par devoir, c'était par caprice. Il la regarda, surprise et attristée. Le mot vous fâche, mon ami. Mettons que c'était par amour, et vraiment c'était de bon cœur, et parce que je sentais que vous m'aimiez. Mais l'amour doit être un plaisir, et si je n'y trouve pas la satisfaction de ce que vous appelez mes caprices, et de ce qui est mon désir, ma vie, mon amour même, je n'en veux plus, j'aime mieux vivre seul. Vous êtes étonnant, mes caprices, mais est-ce qu'il y a autre chose dans la vie? Votre chasse au renard, ce n'est pas un caprice? Il répondit très sincèrement. Ah, si je n'avais pas promis, je vous jure, Thérèse, que je vous sacrifierais ce petit plaisir avec bien de la joie. Elle sentit qu'il disait vrai. Elle le savait très exact à tenir ses engagements dans les moindres affaires. Sans cesse enchaîné par sa parole, il portait dans les relations mondaines une minutieuse exactitude de conscience. Elle entrevit qu'en insistant, elle obtiendrait qu'il ne partît pas. Mais il était trop tard, elle ne voulait plus gagner. Elle ne cherchait désormais que le plaisir violent de perdre. Elle fit semblant de prendre au sérieux cette raison qu'elle trouvait assez niaise. Ah oui, vous avez promis. Et elle céda perfidement. Surpris d'abord, il se félicita bientôt au-dedans de lui-même de lui avoir fait entendre raison. Il lui sut gré de ne pas s'entêter. Il lui prit la taille et lui mit sur la nuque et sur les paupières de petits baisers honnêtes, comme une récompense. Il montra de l'empressement lui consacrer ses journées de Paris. Oh, mais nous pouvons, ma chérie, nous revoir 3 ou 4 fois avant mon départ, et plus encore si vous voulez. Je vous attendrai chez nous aussi souvent que vous voudrez venir. Voulez-vous demain? Elle se donna la satisfaction de ne pouvoir revenir ni le lendemain ni les autres jours. Très doucement, elle disait les empêchements. L'obstacle paraissait d'abord léger, des visites à rendre, une robe à essayer, une vente de charité, des expositions, des tapisseries qu'elle voulait voir acheter peut-être. À l'examen, les difficultés grossirent, s'amassèrent. Les visites ne pouvaient se retarder. Oh non, ce n'était pas une vente, c'était 3 ventes où il fallait aller. Les expositions fermaient. Les tapisseries partaient pour l'Amérique. Enfin, c'était impossible qu'elle le revît avant son départ. Comme il était en son caractère de s'arrêter à des raisons de ce genre, il ne s'aperçut point que ce n'était guère naturel à Thérèse de les soulever. Embarrassé dans ce tissu léger d'obligations mondaines, il ne résista pas, resta muet et malheureux. De son bras gauche, élevé sur sa tête, elle souleva la portière, posa la main droite sur la clé de la porte, et là, dans les grands pans de saphir et de rubis de la laine orientale, la tête tournée vers l'ami qu'elle quittait, elle lui dit, un peu moqueuse et presque tragique, « Adieu, Robert, amusez-vous bien. Mes visites, mes courses, vos petits voyages, ce n'est rien. » Il est vrai que la fatalité est faite de ces riens-là. Adieu! Elle sortit. Il aurait voulu l'accompagner, mais il se faisait scrupule de se montrer avec elle dans la rue quand il ne l'obligeait pas absolument. Dehors, Thérèse se sentit tout à coup seule, seule au monde, sans joie et sans douleur. Elle rentra chez elle à pied, comme d'habitude. Il faisait nuit, l'air était glacé, clair et tranquille. Mais les avenues qu'elle suivait dans une ombre semée de lumière l'enveloppaient de cette tiédeur des villes, si douce aux citadins, et qu'ils sentent jusque dans le froid de l'hiver. Elle allait entre les lignes de masures, de chalets et de bicoques, restes des temps champêtres de Auteuil, qu'interrompaient çà et là de hautes maisons montrant avec ennui leurs pierres d'attente. Ces boutiques de petits marchands, ces fenêtres monotones, ne lui étaient de rien. Pourtant, elle se sentait sous le mystère de l'amitié des choses. Il lui semblait que les pierres, les portes des maisons, ces lumières là-haut, derrière les vitres, lui étaient favorables. Elle était seule et elle voulait être seule. Ses pas, qu'elle faisait entre les deux demeures dont elle avait une habitude presque égale, ses pas qu'elle avait fait tant de fois, aujourd'hui lui paraissaient sans retour. Pourquoi ? Qu'est-ce que cette journée avait apporté ? À peine une contrariété, pas même une querelle. Et pourtant, cette journée avait une saveur faible, étrange, persistante, un goût inconnu qui ne s'en irait plus. Mais que s'était-il passé ? Rien. Et ce rien effaçait tout. Elle avait une sorte de certitude obscure qu'elle ne retournerait jamais plus dans cette chambre, qui tantôt encore enfermait le plus secret et le plus cher de sa vie. C'était une liaison sérieuse. Elle s'était donnée avec la gravité d'une joie nécessaire. Faite pour l'amour et très raisonnable, elle n'avait pas perdu, dans l'abandon de sa personne, cet instinct de réflexion, ce besoin de sécurité qui était très fort en elle. Elle n'avait pas choisi, on ne choisit guère. Elle ne s'était pas non plus laissée prendre au hasard et par surprise. Elle avait fait ce qu'elle avait voulu, autant qu'on fait ce qu'on veut dans ces affaires-là. Elle n'avait pas à regretter. On avait été pour elle ce qu'on devait être. C'était une histoire à rendre à un homme très recherché dans le monde et qui avait toutes les femmes qu'il voulait. Elle sentait malgré tout que c'était fini et tout naturellement. Elle songeait avec une mélancolie sèche. 3 ans de ma vie, un honnête homme qui m'aime et que j'aimais, car je l'aimais, il le fallait bien pour me donner à lui. Je ne suis pas une femme perdue. Mais elle ne pouvait plus retrouver ses sentiments de ce temps-là, les mouvements de son âme et de sa chair quand elle s'était donnée. Elle se rappelait des circonstances petites et tout à fait insignifiantes. Les fleurs du papier, les tableaux de la chambre. C'était une chambre d'hôtel. Il lui souvenait des mots un peu ridicules et presque touchants qu'il lui avait dit. Mais il lui semblait que l'aventure était arrivée à une autre femme, une étrangère, qu'elle n'aimait pas beaucoup, qu'elle ne comprenait guère. Et la chaude tout à l'heure, ses caresses qu'elle emportait sur sa chair, tout cela était loin. Le lit, les lilas dans le cornet de cristal, la petite coupe de verre de bohème où elle trouvait ses épingles, elle voyait tout comme par une fenêtre quand on passe dans la rue. Elle était sans amertume et même sans tristesse. Elle n'avait rien à pardonner, hélas. Cette absence d'une semaine, ce n'était pas une trahison, ce n'était pas une faute contre elle, ce n'était rien, mais c'était tout. C'était la fin. Elle le savait. Elle voulait rompre. Elle le voulait comme la pierre qui tombe veut tomber. C'était un consentement à toutes les forces secrètes de son être et de la nature. Elle se disait, je n'ai pas des raisons de l'aimer moins. Est-ce que je ne l'aime plus ? L'ai-je jamais aimé ? Elle ne savait pas, et il lui était indifférent de le savoir. 3 ans pendant lesquels elle s'était donnée 2 et 4 fois par semaine. Il y avait des mois où elle s'était vue tous les jours. Mais ce n'était donc rien que cela. Mais la vie, ce n'est pas grand-chose. Et ce qu'on met dedans, ce que c'est peu. Enfin, elle n'avait pas à se plaindre. Mais il valait mieux en finir. Toutes ces réflexions la ramenaient là. Ce n'était pas une résolution. Les résolutions, on en change. C'était plus grave. C'était un état de la chair et de la pensée. Arrivée à la place dont le milieu est rempli par un bassin et sur un côté de laquelle s'élève une église de style rustique, laissant voir sa cloche dans une arcade ouverte sur le ciel, elle se rappela le bouquet de violettes de dessous qu'il lui avait offert un soir sur le petit pont près de Notre-Dame. Ils s'étaient aimés ce jour-là, peut-être avec plus d'abandon et de fantaisie que d'habitude. Son cœur s'amollit à ce souvenir. Elle le chercha, mais elle ne trouva rien. Le petit bouquet restait seul, le pauvre petit squelette de fleurs, dans son souvenir. Tandis qu'elle allait songeant, des passants trompés à la simplicité de sa mise, la suivaient. L'un d'eux lui fit des propositions. Un dîner, en particulier Carminet, et le théâtre. En dedans, elle en fut amusée et distraite. Elle n'était pas bouleversée du tout. Ce n'était pas une crise. Elle pensa, mais comment font les autres femmes? Et moi qui me félicitais de ne pas gâcher ma vie, pour ce qu'elle vaut, la vie. En vue de la lanterne néo-grecque du musée des religions, elle trouva le sol bouleversé par des travaux souterrains. Sur une tranchée profonde, entre des talus de terre noire, des tas de pavés, des monceaux de dalles, une passerelle était jetée, faite d'une planche étroite et flexible. Elle s'y était engagée quand elle vit au bout, devant elle, un homme arrêté pour l'attendre. Il l'avait reconnue et il la saluait. C'était De Chartres. Elle crut voir, en passant devant lui, qu'il était heureux de cette rencontre. Elle le remercia d'un sourire. Il lui demanda la permission de faire quelques pas avec elle. Et ils entrèrent ensemble dans le large espace que remplissait l'air vif. En cet endroit, les hautes maisons reculent, s'effacent et découvrent une partie du ciel. Il lui dit qu'il l'avait reconnue de loin au rythme de ses lignes et de ses mouvements, qui étaient bien à elle. « Les beaux mouvements, ajouta-t-il, c'est la musique des yeux !» Elle répondit qu'elle aimait beaucoup la marche, que c'était son plaisir et sa santé. Lui aussi se plaisait aux longues courses à pied dans les villes populeuses et dans les belles campagnes. Le mystère des grands chemins le tentait. Il aimait les voyages. Bien que devenu maintenant commun et facile, il gardait pour lui leur charme puissant. Il avait vu des jours dorés et des nuits transparentes, la Grèce, l'Égypte et le Bosphore. Mais c'est à l'Italie qu'il revenait toujours comme à la patrie de son âme. « Mais j'y vais la semaine prochaine, dit-il. Je veux revoir Ravenne endormie dans les pins noirs du rivage stérile. Êtes-vous allée à Ravenne, madame? C'est une tombe enchantée où paraissent des fantômes étincelants. La magie de la mort est là. Les mosaïques de Saint Vital et les deux saints Apollinaire, avec leurs anges barbares et leurs impératrices nimbées, font sentir les délices monstrueuses de l'Orient. Dépouillé aujourd'hui de ses lames d'argent, le tombeau de Galla Placidia est effrayant sous sa crypte lumineuse et sombre. Quand on regarde par une fente du sarcophage, on croit y voir encore la fille de Théodose, assise sur sa chaise d'or, droite dans sa robe semée de pierreries et brodée de scènes de l'Ancien Testament, son beau visage cruel, conservé dur et noir par les aromates et ses mains d'ébène immobiles sur ses genoux. 13 siècles elle garda cette majesté funèbre, jusqu'à ce qu'un enfant, en passant une chandelle par l'ouverture du tombeau, brûla le corps avec la dalmatique. Madame Martin Mellem demanda ce qu'avait fait de son vivant cette morte si obstinée dans son orgueil. Mais deux fois esclave, dit de Chartres, elle redevint deux fois impératrice. Elle était sans doute jolie, dit Madame Martin. Vous ne l'avez pas fait trop bien voir dans son tombeau. Elle m'effraie. N'irez-vous pas à Venise, monsieur de Chartres? Où êtes-vous là? Des gondoles, des canots bordés de palais et des pigeons de la place Saint-Marc? Oh, je vous avoue que j'aime encore Venise après y être allé 3 fois. Il lui donna raison. Il aimait aussi Venise. Chaque fois qu'il y allait, de sculpteur, il devenait peintre et faisait des études. C'est l'air qu'il aurait voulu y peindre. Ailleurs, dit-il, même à Florence, le ciel est loin, tout en haut, tout au fond. À Venise, il est partout. Il caresse la terre et l'eau, il enveloppe avec amour les dômes de plomb et les façades de marbre, et jette dans l'espace irisé ses perles et ses cristaux. La beauté de Venise, c'est son ciel et ses femmes. Les Vénitiennes, quelles jolies créatures! Et d'un geste si hardi, si pur, ses chairs minces et souples qu'on sent pleines sous le châle noir. Ne resterait-il de ces femmes-là qu'un os? On retrouverait dans cet os le charme de leur structure exquise. Le dimanche à l'église, elles forment des groupes rieurs, agités, un fouillis de hanches un peu pointues, de nuques élégantes, de sourires fleuris, de regards enflammés. Et tout cela plie avec une souplesse de jeune bête au passage d'un prêtre à tête de Vitellius, qui, le menton répandu sur sa chasuble, porte le calice précédé de deux enfants de cœur. Il allait d'un pas inégal au gré de ses idées, tantôt pressées, tantôt lentes. Elle marchait plus régulièrement et tendait à le dépasser. Et, la regardant de côté, il lui trouvait l'allure souple et ferme qu'il aimait. Il remarquait la petite secousse que par instant sa tête volontaire donnait au brin de gui piqué à sa toque. Sans y songer, il subissait le charme de cette rencontre presque intime avec une jeune femme presque inconnue. Ils étaient arrivés à l'endroit où la large avenue déploie ses quatre rangs de platanes. Ils suivaient le parapet de pierre surmonté d'un rideau de buis qui cache heureusement la laideur des bâtiments militaires étalés en contrebas sur le quai. Au-delà se devinait le fleuve à cet air laiteux qui, dans les jours sans brume, repose sur les eaux. Le ciel était clair. Les feux de la ville se mêlaient aux étoiles. Au sud brillaient les trois clous d'or du baudrier d'Orion. L'année dernière, à Venise, chaque matin, en sortant de chez moi, je trouvais devant sa porte, élevée de trois marches sur le canal, une fille admirable, la tête petite, le cou rond et fort, la hanche libre. Elle était là, dans le soleil et la vermine, pure comme une amphore capiteuse, comme une fleur. Elle souriait, quelle bouche, le plus riche joyau dans la plus belle lumière. Je m'aperçus à temps que ce sourire allait à un garçon boucher campé derrière moi, son panier sur la tête. À l'angle de la rue courte qui descend sur le quai, entre deux rangées de jardinets, Madame Martin ralentit le pas. « C'est vrai qu'à Venise, dit-elle, les femmes sont jolies. » Elles sont presque toutes jolies, madame. Je parle des filles du peuple, des cigarières, des petites ouvrières, des verreries. Les autres sont comme partout. Les autres, vous voulez dire les femmes du monde. Et vous ne les aimez pas, celles-là? Les femmes du monde, oh, il y en a de charmantes. Quant à les aimer, c'est une toute autre affaire. Croyez-vous? Elle lui tendit la main et tourna brusquement l'angle de la rue. Elle dînait ce soir-là, seule avec son mari. La table rétrécie ne portait ni la corbeille aux aigles d'or, ni les victoires ailées. Les torchères n'éclairaient pas, au-dessus des portes, les chiens d'hauterie. Tandis qu'il parlait des choses du jour, elle s'enfonçait dans une rêverie morne. Il lui semblait qu'elle traversait un brouillard et qu'elle allait perdue et loin de tout. C'était une souffrance paisible et presque douce. Elle voyait vaguement, à travers les brumes, la petite chambre de la rue Spontini, transportée par des anges noirs sur un des sommets de l'Himalaya. Et lui, dans le tremblement d'une espèce de fin du monde, il avait disparu, très simple, mettant ses gants. Elle se tâta le poignet pour voir si elle n'avait pas de fièvre. Brusquement, un choc clair d'argenterie sur la table de dessert la réveilla. Elle entendit son mari qui disait « Ma chère amie, Gabo a prononcé aujourd'hui à la Chambre un excellent discours sur la question de la caisse des retraites. C'est extraordinaire à quel point ses idées sont devenues saines et comme maintenant une frappe juste. Oh, il a beaucoup gagné !» Elle ne put s'empêcher de sourire. « Mais mon ami Gavot, c'est un pauvre diable qui n'a jamais pensé qu'à se tirer de la cohue des affamés et qu'à se pousser. Des idées, Gavot, mais il n'en a qu'au coude. Est-ce que vraiment on le prend au sérieux dans le monde politique? Croyez bien qu'il n'a jamais fait illusion à une femme, pas même à la sienne. Et cependant, pour donner des illusions là, il faut pas grand-chose, je vous assure. » Et brusquement, elle ajouta, « Vous savez que Miss Bell m'a invité à passer un mois chez elle à Fiesole. J'ai accepté, je pars. » Moins surpris que mécontent, il lui demanda avec qui elle partait. Tout de suite, elle trouva et dit « Avec Madame Marmet. » Il n'y avait rien à répondre. Madame Marmet était une espèce de dame de compagnie tout à fait honorable et désignée spécialement pour l'Italie, où son mari, Marmet l'Étrusque, avait fait des fouilles dans la nécropole. Il demanda seulement « L'avez-vous prévenu et quand pensez-vous partir ?»« La semaine prochaine. » Il eut la sagesse de ne rien objecter pour le moment, jugeant que l'opposition ne ferait qu'affermir un caprice sans consistance, et craignant de donner un corps à cette idée folle. Alors il glissa. « Assurément, oui, c'est une agréable distraction que les voyages. J'ai pensé que nous pourrions au printemps visiter le Caucase, le Turkestan, la Transcaspie. Voilà un pays intéressant et peu connu. Le général Annenkoff mettrait à notre disposition des voitures, des trains entiers sur la voie ferrée qu'il a construite. C'est un ami à moi, vous lui plaisez beaucoup. Il nous fournira une escorte de Cosaques. Cela ne manquera pas d'allure. » Il s'obstinait à vouloir la prendre par la vanité et ne pouvant s'imaginer qu'elle ne fût pas d'âme mondaine et comme lui, poussée par l'amour-propre. Elle répondit négligemment que ce serait peut-être un joli voyage. Alors il vanta les montagnes du Caucase, les villes anciennes, les bazars, les costumes, les armes. Et il ajouta « Bien, nous emmènerons quelques amis, la princesse Seniavine, le général Larivière, peut-être Vance ou le Ménil. » Elle répondit avec un petit rire sec qu'on avait bien le temps de choisir les invités. Il se fit attentif, prévenant « Vous ne mangez pas, vous vous perdrez l'estomac. » Sans croire encore à ce prompt départ, pourtant, ils s'en inquiétaient. Ils avaient l'un et l'autre repris leur liberté, mais ils n'aimaient point être seuls. Il se sentait lui-même qu'avec sa femme et toute sa maison montée. Et puis il avait résolu de donner deux ou trois grands dîners politiques pendant la session. Il voyait son parti grandir. C'était le moment de s'affirmer, de paraître avec éclat. Et il dit mystérieusement, « Telle circonstance peut se présenter où nous aurons besoin du concours de tous nos amis. Vous n'avez pas suivi la marche des événements, Thérèse ?»
Oh « Non, mon ami.
J'en suis fâché. Vous avez du jugement, une grande ouverture d'esprit. Si vous aviez suivi la marche des événements, vous auriez été frappé du courant qui ramène le pays aux opinions modérées. Le pays est las des exagérations. Il rejette les hommes compromis dans la politique radicale et dans les persécutions religieuses. Il faudra un jour ou l'autre faire un ministère Casimir Perrier avec d'autres hommes, et ce jour-là. » Il s'arrêta, elle l'écoutait vraiment trop peu et trop mal. Elle songeait, triste et désenchantée. Il lui semblait que cette jolie femme qui, là-bas, sous les ombres chaudes de la chambre close, trempait ses pieds nus dans la fourrure de l'ours brun, et à qui un ami donnait des baisers sur la nuque tandis qu'elle tordait ses cheveux devant la Psyché, ce n'était point elle, ce n'était pas même une femme qu'elle connut beaucoup ni qu'elle voulut connaître, mais une dame dont les affaires ne l'intéressaient pas. Une épingle mal piquée dans ses cheveux, une des épingles de la coupe en verre de Bohème, lui glissa dans le cou, elle frissonna. « Il faudra pourtant, dit M. Martin Bellem, donner trois ou quatre dîners à nos amis politiques. » Nous mettrons les anciens radicaux avec des gens de notre monde. Il sera bon de trouver aussi quelques jolies femmes. On peut très bien l'inviter, Madame Bérard de Laval. Voilà 2 ans qu'on ne dit plus rien d'elle. Qu'en pensez-vous?
Mais, mon ami, puisque je pars la semaine prochaine.
Il fut consterné. Ils passèrent, tous deux, muets et sombres, dans le petit salon où Paul Vance attendait. Il venait souvent le soir, familièrement. Elle lui tendit la main.
Je suis bien contente de vous voir. Je vous fais les adieux, de petits adieux. Paris est froid et noir. Cet homme me fatigue et m'attriste. Je vais passer 6 semaines à Florence, chez Miss Bell.
Monsieur Martin Bellem leva les yeux au ciel. Vance demanda s'il n'était pas allé déjà plusieurs fois en Italie.
Oui, 3 fois, mais je n'ai rien vu. Cette fois, je veux voir, me jeter, me tremper dans les choses. De Florence, je ferai des promenades en Toscane, dans l'Ombrie. Et pour finir, j'irai à Venise.
Vous ferez bien. Venise, c'est le repos du dimanche dans la grande semaine de l'Italie, créatrice et divine.
Votre ami de Chartres m'a parlé très joliment de Venise, de l'air de Venise qui sème des perles.
Oui, à Venise, le ciel est coloriste. À Florence, il est spirituel. Un vieil auteur a dit « Le ciel de Florence, léger, subtil, nourrit les belles idées des hommes. » J'ai vécu des jours délicieux en Toscane. Oh, je voudrais bien en vivre de nouveau.
Et venez m'y retrouver.
Il soupira. Oh, les journaux, les revues, la tâche quotidienne.
Monsieur Martin Bellem dit qu'il fallait s'incliner devant ses raisons et qu'on était trop heureux de lire les articles et les livres de Monsieur Paul Vance pour pouvoir leur distraire de son travail.
Oh, mes livres, on ne dit rien dans un livre de ce qu'on voudrait dire. S'exprimer, c'est impossible. Eh oui, je sais parler avec ma plume, tout comme un autre, mais parler, écrire, quelle pitié! C'est une misère quand on y songe que ces petits signes dont sont formés les syllabes, les mots, les phrases. Que devient l'idée, la belle idée, sous ces méchants hiéroglyphes à la fois communs et bizarres? Qu'est-ce qu'il en fait, le lecteur de ma page d'écriture? Une suite de faux sens, de contresens et de non-sens. Lire, entendre, c'est traduire. Il y a de belles traductions, peut-être, il n'y en a pas de fidèles. Qu'est-ce que ça me fait qu'ils admirent mes livres, puisque c'est ce qu'ils ont mis dedans qu'ils admirent? Chaque lecteur substitue ses visions aux nôtres. Nous lui fournissons de quoi frotter son imagination. Il est horrible de donner matière à de pareils exercices. C'est une profession infâme.
Ne vous plaisantez, fit Monsieur Martin.
Oh, je ne crois pas, dit Thérèse. Il reconnaît que les âmes sont impénétrables aux âmes et il en souffre. Il se sent seul quand il pense, seul quand il écrit. Quoi qu'on fasse, on est toujours seul au monde. C'est ce qu'il veut dire. Il a raison, on s'explique toujours, on ne se comprend jamais.
Il y a les gestes, dit Paul Vance.
Et ne pensez-vous pas, Monsieur Vance, que c'est encore un genre d'hiéroglyphe? Donnez-moi des nouvelles de Monsieur Choulette, je ne le vois plus.
Vance répondit que Choulette était très occupé pour le moment à réformer le tiers-ordre de Saint-François.
Oh, l'idée de cette œuvre, madame, lui est venue d'une façon merveilleuse. Un jour qu'il allait visiter Maria dans la rue où elle demeure, derrière l'Hôtel-Dieu, une rue toujours humide aux maisons penchantes. Vous savez que Maria est la sainte et la martyre qui expie les péchés du peuple. Il tira le pied de biche graissé par 2 siècles de visiteurs. Et soit que la martyre se trouva chez le marchand de vin, où elle était familière, soit qu'elle fût occupée dans sa chambre, elle n'ouvrit pas. Choulette sonna longtemps et si fort que le pied de biche avec le cordon lui resta dans la main. Habile à concevoir les symboles et à pénétrer le sens caché des choses, il comprit tout de suite que ce cordon ne s'était pas détaché sans la permission de puissance spirituelle. Il le médita. Le chanvre était couvert d'une crasse noire et gluante. Il s'en fit une ceinture et connut qu'il était choisi pour amener à la pureté première le tiers ordre de Saint-François. Il renonça à la beauté des femmes, aux délices de la poésie, aux éclats de la gloire, et il étudia la vie et la doctrine du bienheureux. Cependant, il a vendu à son éditeur un livre intitulé « Les Blandis », qui renferme, dit-il, la description de toutes les sortes d'amour. Il se flatte de s'y être montré criminel avec quelque élégance. Mais, loin de contrarier ses entreprises mystiques, ce livre les favorise en ce sens que, corrigé par un ouvrage ultérieur, il deviendra très honnête et exemplaire. Et parce que l'or, il dit même les ors, qu'il a reçus en paiement et qu'on ne lui aurait pas donné d'un écrit plus chaste, lui serviront à faire un pèlerinage à Assise. Madame Martin, amusée, demanda ce qu'il y avait de réellement vrai dans cette histoire. Voss répondit qu'il ne fallait pas chercher à le savoir. Il avouait à demi qu'il était l'historien idéaliste du poète et qu'on ne devait pas prendre les aventures qu'il en contait au sens littéral et judaïque. Du moins, affirmait-il que Choulette publiait les Blandis et voulait visiter la cellule et le tombeau de Saint-François. « Mais alors, s'écria Madame Martin, je l'emmène en Italie. Monsieur Vance, trouvez-le et amenez-le-moi. Je pars la semaine prochaine. » Monsieur Martin s'excusa de ne pouvoir rester plus longtemps. Il fallait qu'il terminât un rapport qui devait être déposé le lendemain. Madame Martin dit qu'il n'y avait personne qui l'intéressât plus que Choulette. Paul Vance le tenait aussi pour une grande singularité humaine. Bon, il n'est pas bien différent des saints dont nous lisons la vie extraordinaire. Il est sincère comme eux, d'une délicatesse exquise de sentiment et d'une violence d'âme terrible. S'il choque par beaucoup de ses actions, c'est qu'il est plus faible, moins soutenu, ou peut-être seulement observé de plus près. Et puis il y a de mauvais saints, comme de mauvais anges. Choulette est un mauvais saint, voilà tout. Mais ses poèmes sont de vrais poèmes spirituels, et bien plus beaux que tout ce que firent en ce genre, au XVIIe siècle, les évêques de cour et les poètes de théâtre. Elle interrompit. « Ah, pendant que j'y pense, je veux vous faire compliment de votre ami de Chartres. C'est un esprit charmant. » Elle ajouta, « Peut-être un peu trop renfermé sur lui-même. » Van Hennance lui rappela qu'il avait bien dit que Chartres l'intéresserait. « Je le sais par cœur, c'est un ami d'enfance. »« Vous avez connu sa famille ?»« Oui, le fils unique de Philippe de Chartres. » L'architecte ? Ou l'architecte qui, sous Napoléon III, restaura tant de châteaux et d'églises en Touraine et dans l'Orléanais. Il avait du goût et du savoir. Solitaire et très doux, il eut l'imprudence d'attaquer Viollet-le-Duc, alors tout-puissant. Ce qu'il lui reprochait, c'était de vouloir rétablir les édifices dans leur plan primitif, tels qu'ils avaient été ou tels qu'ils avaient dû être à l'origine. Philippe de Chartres voulait au contraire qu'on respectât tout ce que les siècles avaient ajouté peu à peu à une église, à une abbaye, à un château. Faire disparaître les anachronismes et ramener un édifice à son unité première lui semblait une barbarie scientifique aussi redoutable que celle de l'ignorance. Et il disait, ou il répétait sans cesse, « C'est un crime que d'effacer les empreintes successives imprimées dans la pierre par la main et l'âme de nos aïeux. Les pierres neuves taillées dans un vieux style sont de faux témoins. » Il voulait que la tâche de l'architecte archéologue fût bornée à soutenir et à consolider les murailles. Il avait raison, on lui donna tort. Il acheva de se nuire en mourant jeune dans le triomphe de son rival. Il laissait pourtant à sa veuve et à son fils une fortune honnête. Jacques de Chartres fut élevé par sa mère, qu'il adorait. Je ne crois pas que la tendresse paternelle ait jamais été si impétueuse. Jacques est un charmant garçon, mais c'est un enfant gâté. Où il a l'air pourtant si indifférent, si facile à vivre, si loin de tout. Oh, ne vous y fiez pas, c'est une imagination tourmentée et tourmentante. Est-ce qu'il aime les femmes? Pourquoi me demandez-vous cela? Oh, ce n'est pas pour un mariage. Oui, il les aime. Je vous ai dit que c'était un égoïste. Il n'y a que les égoïstes qui aiment vraiment les femmes. Après la mort de sa mère, il a eu une longue liaison avec une actrice connue, Jeanne Tancrède. Madame Martin se rappelait un peu Jeanne Tancrède. Pas très jolie, mais très bien faite, d'une grâce un peu traînante dans ses robes d'amoureuse. Elle-même, reprit Revolvance, oui. Oui, ils vivaient presque tout à fait ensemble, dans une petite maison de la cité des Jasmins, à Auteuil. J'allais souvent les voir. Je le trouvais perdu dans ses rêves, oubliant de modeler une figure qui séchait sous ses linges, seul avec lui-même, suivant son idée, absolument incapable d'écouter personne. Et elle, piochant ses rôles, le teint brûlé par le fard, les yeux tendres, jolie d'intelligence et d'activité. Elle se plaignait à moi qu'il fût distrait, maussade, difficile. Elle l'aimait bien, ne le trompait que pour avoir des rôles. Et quand elle le trompait, c'était tout de suite, c'était fait tout de suite. Après, elle n'y pensait plus. Non, une femme sérieuse. Mais elle se laissa voir, s'afficha avec Joseph Springer, dans l'espoir qu'il la ferait entrer à la Comédie Française. De Chartres se fâcha et rompit. Maintenant, elle trouve plus pratique de vivre avec ses directeurs et Jacques, plus agréable de faire des voyages. Est-ce qu'il la regrette? Oh, comment voulez-vous qu'on sache ce qui se passe dans un esprit inquiet et mobile, égoïste et passionné, avide de se donner, prompt à se reprendre, s'aimant généreusement lui-même dans tout ce qu'il rencontre de beau au monde? Elle changea brusquement de propos. « Et votre roman, monsieur Vance ?»« J'en suis au dernier chapitre, madame. Mon petit ouvrier ciseleur a été guillotiné. Il est mort avec cette indifférence des vierges sans désir qui n'ont jamais senti aux lèvres le goût chaud de la vie. Les journaux et le public approuvent avec convenance l'acte de justice qui vient d'être accompli. Mais dans une mansarde, un autre ouvrier, sobre, triste et chimiste, se jure de commettre le meurtre expiatoire. Il se leva et prit congé. Elle le rappela. « Monsieur Vance, vous savez que c'est sérieux. Amenez-moi Choulette. » Lorsqu'elle monta dans sa chambre, son mari, sur le palier, la guettait en robe de chambre de peluche mordorée, une espèce de bonnet de doge encadrant son visage pâle et creux. Il avait un air de gravité. Derrière lui, par la porte ouverte de son cabinet de travail, apparaissait sous la lampe un amas de dossiers de documents à couverture bleue, les in-quarto ouverts des budgets annuels. Avant qu'elle pût gagner sa chambre, il lui fit signe qu'il voulait lui parler. « Ma chère amie, je ne vous conçois pas. Vous êtes d'une inconséquence qui peut vous faire le plus grand tort. Vous désertez votre maison sans motif, sans même un prétexte, et vous voulez courir l'Europe avec qui? Avec un bohème, un ivrogne, ce Choulette. » Elle répondit qu'elle voyagerait avec Madame Marmet et qu'il n'y avait rien là que de très convenable. Mais vous annoncez votre départ à tout le monde et vous ne savez pas seulement si Madame Marmet pourra vous accompagner. Oh, elle aura bientôt fait si mal, la bonne âme Marmet. Il n'y a que son chien qui la retienne à Paris. Elle vous le laissera, vous le soignerez. Et votre père est-il informé de vos projets? C'était sa ressource d'invoquer l'autorité de Montessuie quand la sienne était méconnue. Il savait que sa femme craignait beaucoup de mécontenter son père ou d'être mal jugée par lui. Il insista. « Votre père est plein de sens et de tact. J'ai été heureux de me rencontrer plusieurs fois avec lui dans les conseils que je me suis permis de vous donner. » Il trouve, comme moi, que la maison de Madame Meillant n'était pas convenable pour une femme comme vous. Le monde y est très mêlé et la maîtresse de la maison favorise les intrigues. Donc vous avez un grand tort, je dois vous le dire. C'est de ne pas tenir assez compte de l'opinion du monde. Je me trompe bien si votre père ne trouve pas singulier que vous vous envoliez avec cette légèreté.
Et votre absence sera d'autant plus remarquée, ma chère amie, que dans le cours de cette législature, permettez-moi de vous le rappeler, les circonstances m'ont mis en vue. Mon mérite n'est pour rien, assurément, dans cette situation. Mais si vous aviez consenti à m'écouter pendant le dîner, je vous aurais démontré que le groupe d'hommes politiques auquel j'appartiens est à deux doigts du pouvoir. Ce n'est pas dans un pareil moment que vous devez renoncer à vos devoirs de maîtresse de maison. Vous le comprenez vous-même. » Elle lui répondit : « Oh, vous m'ennuyez. » Et lui tournant le dos, elle alla s'enfermer dans sa chambre. Ce soir-là, dans son lit, elle ouvrit un livre comme à l'ordinaire avant de s'endormir. C'était un roman. Elle tournait les feuillets avec distraction quand elle trouva ces lignes. L'amour est comme la dévotion, il vient tard. On n'est guère amoureuse ni dévote à 20 ans, à moins d'une disposition spéciale, d'une sorte de sainteté native. Les prédestinées elles-mêmes luttent longtemps contre cette grâce d'aimer plus terrible que la foudre qui tombe sur le chemin de Damas. Une femme, le plus souvent, ne cède à l'amour-passion qu'à l'âge où la solitude n'effraie plus. C'est qu'en effet, la passion est un désert aride, une thébaïde brûlante. La passion, c'est l'ascétisme profane, aussi rude que l'ascétisme religieux. Aussi voit-on que les grandes amoureuses sont aussi rares que les grandes pénitentes. Ceux qui connaissent bien la vie et le monde savent que les femmes ne mettent pas volontiers sur leur poitrine délicate le cilice d'un véritable amour. Ils savent que rien n'est moins commun qu'un long sacrifice. Et considérez ce qu'une mondaine doit immoler quand elle aime. Liberté, quiétude, jeu charmant, d'une âme libre, coquetterie, amusement, plaisir, elle y perd tout. Le flirt est permis. Il est conciliable avec toutes les exigences de la vie élégante. L'amour, point. C'est la moins mondaine des passions, la plus antisociale, la plus sauvage, la plus barbare. Aussi le monde le juge-t-il plus sévèrement que la galanterie et que la légèreté des mœurs. En un sens, il a raison. Une Parisienne amoureuse dément sa nature et manque à cette fonction qui est d'être à tous comme une œuvre d'art. C'en est une, et la plus merveilleuse que l'industrie de l'homme ait jamais produite. C'est un prestigieux artifice dû au concours de tous les arts mécaniques et de tous les arts libéraux. C'est l'œuvre commune, c'est le bien commun. Son devoir est de paraître. » Thérèse ferma le livre et songea que c'était là des rêves de romanciers qui ne connaissaient pas la vie. Elle le savait bien, elle, qu'il n'y avait dans la réalité ni carmel de la passion, ni cilice de l'amour, ni vocation belle et terrible à laquelle la prédestinée résistait en vain. Elle le savait, que l'amour c'était seulement une petite ivresse courte dont on sortait un peu triste. Si pourtant elle ne savait pas tout, s'il existait des amours, l'on s'abîma délicieusement. Elle éteignit sa lampe. Les rêves de sa première jeunesse, du fond du passé, revenaient à elle.